À notre tour de vous saluer ce matin, ça fait très très plaisir d'être là, d'autant plus dans des locaux extraordinaires, pendant que j'avais des contacts avec cette communauté, puisque nous en avons eu quand même pendant quelques années. On voyait des plans, on parlait beaucoup de projets, et là, on y est. Et on n'y est pas simplement en termes d'architecture, mais aussi en termes de ministère, avec, avec toi, Johan, et ça fait tellement plaisir d'être là. Avec, à tes côtés aussi, de te voir évoluer. Merci aussi pour votre accueil. Il y a plein de nouveaux visages, ce qui est excellent, dans une communauté grandissante. Alors, on va vivre ce moment ensemble et on va commencer par la lecture de la parole.
Et j'aimerais juste dire avant que notre fidélité est grâce à la fidélité de Dieu. Parce qu'on est tombé et on a pu se relever. On était dans des détresses, mais il nous a consolés. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et quand on lui obéit, c'est aussi une grâce de pouvoir être soutenu par sa présence. Il y a plusieurs lectures ce matin qui vont précéder le message de Philippe. Le premier passage est dans Ésaïe. Au chapitre 60, les versets 1 à 3. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, les versets 5 à 9. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Dans l'évangile de Jean, dans la deuxième épître de Jean, toujours, pardon, je me broute, 1 Jean 2, 5 à 10. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et l'on en voit la réalisation en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui ne risque de causer sa chute. Et puis le dernier texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen.
Voilà à peu près une année et demie que nous sommes voisins. On a quitté le Chablais pour se retrouver ici, dans la région, dans votre région. Et ça fait vraiment plaisir de vous sentir à proximité, même si on ne se voit pas très souvent, mais on se croise avec certains qui ont des liens avec Saint-Loup. Donc, avec Maya, on se retrouve comme pasteur à Saint-Loup pour un projet d'élargissement de la communauté de Saint-Loup, puisque celle-ci prend de l'âge, mais les projets foisonnent. Et donc, on est appelé à pouvoir poursuivre cette vision de Saint-Loup de manière à pouvoir, à travers la communauté, une communauté, prendre le relais de ce qui a été fait depuis 180 ans. Beaucoup de projets, un élargissement de communauté avec des couples, des familles, des jeunes, de manière à pouvoir vivre cette dynamique de la communauté du Christ au cœur de la mission. La vision Saint-Loup, c'est un lieu mis à part de vie communautaire où rencontrer le Christ, être accueilli et restauré pour aller et témoigner de l'amour du Père par l'Esprit Saint. Toute la dynamique de la Trinité, mais aussi de l'amour de Dieu à l'œuvre à travers une vie communautaire. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est cela qui nous a saisis aussi, parce que le contexte est bien différent de ce que nous connaissions avant aussi. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons reçu cette parole pour cette année. Et si on peut le mettre à l'écran, voilà. « Lève-toi, resplendis ou brille, ça dépend les versions, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » On aime bien avoir un verset de l'année, mais en y réfléchissant, en priant dessus, je réalise que cet appel est certainement un appel pour le corps du Christ beaucoup plus largement que Saint-Loup. Se lever, briller, c'est un peu une région de Cossonay connectée au Christ pour la gloire de Dieu. Ça rejoint ce que vous avez comme ordre de marche, comme ordre de vie. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On parle beaucoup de lumière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à commencer par le dictionnaire. Hein. Dans le dictionnaire, il est dit que briller, c'est émettre ou réfléchir une lumière vive. Et encore, c'est se manifester ou se distinguer avec éclat. Alors il y en a, je sais, d'ailleurs c'est devenu un proverbe, hein, il y en a qui se distinguent, qui brillent par leur absence. Hein. Mais Jésus nous appelle plutôt à briller par notre présence dans le monde. Briller, c'est forcément être en lien avec la lumière. La lumière est la première des choses que Dieu a créées au premier jour de la création. Que c'est la première des choses que Dieu a parlé, que la lumière soit. Et la lumière, c'est intéressant en physique, la lumière, c'est quelque chose, c'est un absolu, c'est une constante qui reflète en définitive la nature même de Dieu. Et nous savons tous à quel point c'est important pour nous de vivre. Dans la lumière. La vie a besoin de lumière. Si vous mettez une plante dans une cave, comme on le fait avec les géraniums, vous allez voir qu'elle ne va pas vivre ça très bien, même si, bien sûr, il faut faire hiverner, etc. Mais il y a un effet, l'absence de lumière a un effet néfaste sur la vie. Et on le sait que ces saisons un peu brouillardeuses, eh bien, a un impact sur le moral. Beaucoup de gens souffrent de cette dépression saisonnière Et ils savent que fin octobre venant, ils ne vont pas vivre les meilleures semaines, le meilleur temps de leur année. Et on a aussi besoin, bien sûr, de lumière pour se diriger, hein, à moins qu'on ait vraiment mémorisé le trajet. Nous avons besoin de la lumière. Nous sommes des êtres qui ont besoin de lumière parce que la lumière ressemble à Dieu et nous avons besoin de Dieu pour exister. Mais la lumière, c'est aussi révélateur. Nous avons un beau vase à la maison et il était posé sur notre bibliothèque et voilà, de temps en temps, on le regardait, un vase avec des souvenirs, etc. C'est un cadeau. Et puis, voilà que un jour, on le pose sur la table de la salle à manger, et cette table est éclairée souvent par le soleil. Et voilà que le soleil arrive sur ce beau vase qu'on croyait propre, et puis on a réalisé qu'il y avait au moins, je ne sais pas, c'est comme si on l'avait touché, c'est comme si on l'avait passé dans les rangs, il y avait tellement d'empreintes digitales dessus, et on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Il suffisait que de le remettre à l'ombre pour qu'il paraisse propre. Et dans nos vies, c'est pareil souvent. Il y a des choses qui paraissent quand la lumière vient. Même l'air. Quand vous êtes dans une pièce et le soleil arrive, l'air paraît transparent. Et quand le soleil passe, on se dit, waouh, c'est ça qu'on respire. Il y a plein de trucs qui flottent. Et ça nous, on a presque envie d'aller prendre un masque, puisqu'on en a l'habitude. Mais il y a plein de choses qui flottent. Et quand il y a la lumière qui vient, ça les révèle. Ça veut dire aussi que beaucoup d'entre nous, on a cette tendance qu'on a peur d'être mis en lumière, parce qu'il y a des choses en nous où on réalise bien que ce n'est pas glorieux. Il y a des choses qui nous font honte, des choses qui nous font peur, et on n'a pas envie que ça se sache. Et donc, on a tendance à se cacher, à garder une partie de nous-mêmes hors lumière, hors révélation. On se cache, on nie. Et du coup, ça amène quelque chose d'assez terrible. C'est qu'on donne pouvoir dans notre vie aux mensonges et aux ténèbres. Et il y a une partie de nous qui reste en captivité. La peur nous empêche de croire en un Dieu qui peut nous libérer alors qu'on s'expose à lui. Ça s'appelle la grâce. Dieu vient dans sa grâce et ce qu'on aurait peur de montrer, quand on le lui révèle, quand on lui expose nos vies, quand on ouvre notre vie à lui, eh bien cette lumière vient nous libérer plutôt que nous condamner. Et ça, c'est l'effet de la grâce. C'est que quelque chose qui, normalement, devrait être condamné, est guéri, transformé. Il y a cette force-là en Dieu. L'apôtre Jean écrit, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. » Zéro. Pourquoi ? Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. C'est contre nature. Et le fait que Dieu est lumière reflète quelque chose de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la lumière symbolise à la fois la connaissance, je dirais, révélatrice de Dieu, mais aussi sa nature profonde, sa pureté absolue. Dieu est lumière. Et l'apôtre Jean, pour ceux qui connaissent un peu ces textes, commence souvent ses lettres en parlant de la lumière, en mettant lumière et ténèbres en opposition. Et avec ça, il associe la vie, la mort, la vérité, le mensonge. Tous les écrits de Jean révèlent la réalité de Dieu dans sa perfection spirituelle, dans son excellence morale, dans sa transcendance totale. Et il appelle ça la lumière. Et il nous l'annonce. Et de ce fait, son appel à marcher dans la lumière signifie briller en reflétant la nature de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est être lumineux de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre nature profonde de refléter Dieu. Nous avons été créés en image de Dieu. Et lorsqu'on perd le sujet de notre vie, on se perd soi-même. Nous sommes un peu comme la lune qui reflétons le soleil. Nous n'avons pas la source de lumière en nous-mêmes, mais nous la reflétons et nous en vivons très bien. En fait, nous entrons dans notre destinée lorsque nous reflétons la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu passe par nous. Elle s'incarne en nous par sa parole, par son esprit, par ses actions et surtout par son amour. Désolé, nous ne sommes pas des lumières, mais on peut très bien la refléter. Et Jean nous fait comprendre que briller ou marcher dans la lumière, ce n'est pas une question de perfection, mais c'est une question de relation ou de communion avec le Dieu qui se révèle dans l'amour et la vérité de Jésus-Christ. Tu veux découvrir Dieu, regarde à Jésus. Et tu découvriras un Dieu qui est à la fois immensément au-delà de l'imaginaire, mais en même temps tellement proche, qu'il peut s'incarner et révéler sa nature profonde à travers un homme, à travers un vis-à-vis humain, à travers un frère, un vrai. C'est par le Christ que la lumière et la gloire de Dieu se révèlent, se lèvent sur nous, comme l'a dit Ésaïe. Et Jean nomme cette relation la communion. La communion qui lie Dieu et l'homme. Et cette communion, nous y avons part en recevant Jésus-Christ. Et c'est très fort le terme communion. Communier, c'est participer à l'autre. Jésus a participé à chacun d'entre nous en mourant sur la croix. Il a participé à chacun d'entre nous. Et il nous fait participer à lui par sa résurrection. Et quelque chose se lève sur nous, une vie nouvelle, un reflet de Dieu qui nous fait vivre. Et dans cette communion, c'est intéressant, Jean dit, en fait, dans le cadre de cette communion, le sang de Jésus nous purifie à mesure de tout péché. Pas qu'on doive pécher, mais s'il nous arrive de pécher, nous avons l'assurance du pardon et de la purification. C'est comme une respiration sur nous, en nous. Et quelques versets plus loin, toujours Jean, nous dit que celui qui affirme demeurer en Christ, j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre nous, doit aussi vivre comme lui a vécu. Ça veut dire que briller ou marcher dans la lumière ne se vit pas au niveau d'un discours, mais de la vie, de l'humanité que nous sommes, de la mise en pratique de ce commandement que Jean relève à un moment donné, ce vieux commandement qui en même temps est nouveau. C'est le fait d'aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est l'ADN de toute la loi et des prophètes, comme dira Jésus, mais c'est aussi ce qu'il a vécu lui-même, parfaitement, dans une relation d'amour avec le Père, dans une relation d'amour avec les frères et sœurs. C'est ce double commandement qui va écrire tout l'Ancien Testament, qui va définir la relation à Dieu, la relation entre nous, mais la relation aussi à la nature. C'est toute la loi de l'Ancien Testament. Mais malheureusement, cet appel à la vie est devenu une condamnation parce qu'aucun homme n'a été capable, de par son état de chute, n'a été capable d'aimer et de vivre ce commandement. il en a vécu le contraire et il en récolte aussi le contraire, c'est-à-dire la mort. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment donné, ce Fils de Dieu éternel devient homme. Il vient sur la terre pour accomplir cette loi, dans un corps d'homme, dans une manière humaine de le vivre. Et ainsi, en payant le prix de notre condamnation, mais aussi en nous donnant le fruit de sa vie, eh bien, il nous fait entrer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle destinée, dans notre véritable destinée, celle du pourquoi nous sommes. Et parce qu'il accomplit cela, le don de son esprit transforme le commandement en nouveauté, puisque le commandement devient une promesse et une puissance de vie. Lorsque Dieu te dit « tu aimeras », ce n'est pas « tu dois aimer », mais c'est « tu vas aimer ». Parce que il y a l'Esprit du Christ qui vient en nous et qui nous en donne pas simplement le moyen, mais le plaisir de le vivre, le plaisir d'aimer. En Jésus, l'amour n'a jamais été un devoir. On se dit, ah, il faut que je fasse le gentil, quoi. Allez, après je pourrai un peu me reposer. Non, il y a une joie, et dans la joie, il y a la vie qui prend. Et une sorte de mouvement, de cercle vertueux qui se met en route. Et je cite encore l'apôtre Jean. « Car on en voit la réalisation en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. » Ailleurs, dans sa lettre, il dira « dans la mort ». Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute. La meilleure manière de lutter contre nos tensions profondes, quand sur ces zones de tentation que nous avons tous, qui peuvent être différentes, mais souvent c'est la même chose quand même, eh bien, c'est d'aimer. Pourquoi ? Parce que l'amour tel que Christ nous donne de vivre, ça purifie notre âme. Ça affaiblit notre ego aussi. Je ne crois pas qu'il y a de guérison sans entrer dans l'amour. Il n'y a pas de guérison de notre être, de notre mentalité, sans qu'il y ait une relation à l'amour. Briller, c'est pratiquer l'amour de Dieu pour refléter sa gloire envers le monde. Vivre dans la lumière, c'est aimer son prochain. Ne pas aimer son prochain, c'est vivre dans les ténèbres. C'est assez simple, hein? C'est des maths qui sont équations au premier degré, mais redoutables. Et est-ce que vous avez remarqué que dans tous ces textes, il y a toujours une question de lumière et de ténèbres qui se... C'est comme une collision, il y a un conflit, il y a quelque chose. C'est comme si la lumière arrive et elle dit aux ténèbres, ôte-toi que je m'y mette. Et Jésus le dira à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, une lumière située sur une montagne ne peut être cachée, mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, un seau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la pièce. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est intéressant, ça rejoint ce que vous avez écrit. Ils ne disent pas qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils disent « mais qu'est-ce qu'ils sont super !» Il dit « gloire à Dieu ». Pourquoi ? Parce que Dieu, à la manière dont il se glorifie, ça passe toujours par notre humilité. Parce que glorifier Dieu, si ça passe par notre orgueil, ça ne va pas le faire. Et c'est dans la fragilité que la lumière peut poindre. C'est en voyant des gens tout simples, mais avec un amour surnaturel. On se dit, mais ça, ce n'est pas eux. C'est comme si on regarde la lune et puis on cherche le soleil. Jésus appelle ses disciples à briller dans ce monde pour manifester la gloire de notre Père céleste. Et il nous appelle à briller par notre présence. Et ça, c'est l'appel qui est tellement important actuellement pour le corps du Christ en Occident et ailleurs. Briller par notre présence, pas par notre absence. Individuellement et communautairement. Et tout ça, ça commence par ce texte qui est situé un petit peu plus loin dans la lettre de Jean, chapitre 4, verset 16, il dit « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Extraordinaire. Le trait d'union de l'amour qui amène la présence. Et ça commence par connaître l'amour du Christ, connaître l'amour de Dieu. C'est Christ l'amour de Dieu. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons enfants de Dieu. Dieu a révélé son amour afin que nous vivions par le Christ. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas forcément une expérience émotionnelle forte. C'est une expérience, une révélation spirituelle qui touche le cœur. En regardant à Christ, tu vois l'amour de Dieu pour toi et pour les autres. Parce que c'est jamais que pour nous. Ça s'étend toujours. Et en découvrant, en contemplant cet amour du Christ qui vient et en nous ouvrant à cela, à cet amour, réellement comme d'une substance de vie, une lumière de vie, eh bien, qui va m'éclairer en m'ouvrant à ce qu'elle me touche, à ce moment-là, elle commence à devenir reflet de Dieu en moi, pour les autres. Et j'ai piqué le miroir de ma femme, mais je lui redonnerai, c'est sûr. Mais j'aime bien l'histoire du miroir, ça ressemble à la lune, hein. Et en fait, notre cœur est un peu comme un miroir, notre être intérieur. Et il va toujours renvoyer l'image qu'il regarde. Et ma vie va montrer ce vers quoi je suis tourné. Et ça ne montre pas toujours des bonnes choses. Et le fait que mon cœur s'ouvre à l'amour de Dieu, ça va commencer à pouvoir le refléter vers les autres. Sauf que ce n'est pas aussi, même s'il y a deux, trois tâches aussi, je le vois, parce qu'il y a de la lumière, ce n'est pas tout à fait aussi simple qu'un miroir. Pourquoi ? Parce que notre miroir à nous a des courbures et des torsions. Mais c'est un miroir vivant, c'est une âme vivante. Et lorsque l'amour de Dieu vient toucher la surface de cette âme, va commencer à faire une œuvre de redressement, mais aussi de purification. Et je dois toujours être d'accord pour que cette œuvre se fasse, parce qu'elle ne va jamais se faire sans moi. Elle va se faire presque toujours avec moi, parce que c'est une relation, c'est une communion. Ce n'est pas une possession. Et à partir de là, le reflet de l'amour de Dieu va pouvoir se refléter dans mes relations à moi avec les autres, dans ma relation à moi avec moi-même, dans ma relation à moi avec Dieu. Et ça commence à se remplir et à s'éclairer. Et je crois que c'est cette parole que vous avez sous les yeux, « Lève-toi, resplendis ». C'est un appel. C'est un appel qui est bien, bien plus qu'une manière de vivre. C'est une mission. C'est la mission des enfants de Dieu dans un monde ténébreux. Et les ténèbres s'épaississent par endroits. Et la lumière est plus forte que dans les ténèbres, mais elle doit pouvoir être présente. Et la présence de la lumière, c'est nous. Pas parce qu'on est meilleur Bien au contraire, mais parce que nous avons connu cet amour, nous y avons cru, nous nous sommes ouverts à lui. Et en nous ouvrant à lui, il nous ouvre aux autres. Et l'autre devient prend la même importance que moi. Je voudrais juste vous montrer une petite... Voilà, ça se trouve, je crois, en Norvège. Mais au Tessin, il y a aussi ça. C'est qu'il y a des villages, je ne sais pas pourquoi ils ont construit là-en bas, mais il n'y a pas une brique de soleil pendant tout l'hiver. Et ce qu'ils ont fait, ils ont installé des miroirs sur les montagnes qui reflètent sur la place du village le reflet du soleil. Et vous les voyez, ouais, ce n'est pas la canicule, hein, mais ils ont au moins de la lumière. Et ça attire les gens. Ça attire les gens. Et quand Jésus dit « Vous êtes une cité ou une ville sur une montagne », spirituellement, l'Église, c'est ça. Et elle reflète dans les coins sombres de la lumière qui attire ceux. Parce que la lumière, ça attire. C'est comme les poissons, ils sont attirés par la lumière. Pourquoi ? Parce que l'homme a besoin d'amour. Et lorsque l'amour, la lumière, c'est l'amour de Dieu qui se reflète en nous et à travers nous pour eux, il y a quelque chose qui se passe. On n'est plus dans le débat d'idées, oui mais Dieu, non. On y goûte et il y a une réponse qui est autre que celle de la tête. Lève-toi et brille. C'est là ce que je vous laisse comme parole ce matin. Soyez bénis.